Aménagement du territoire, logement, plan numérique, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires et l'invité de France Inter jusqu'à 9h. Julien Denormandie, bonjour.
Bonjour.
Édouard Philippe et 13 ministres s'installent demain et pour deux jours à Cahors dans le Lot. C'est la deuxième conférence des territoires. Essayez de nous expliquer simplement quel en est l'enjeu.
L'enjeu, il est assez simple. Vous savez, aujourd'hui, pour faire de l'aménagement du territoire, pour apporter beaucoup de services à nos concitoyens au jour le jour, il y a des acteurs qui sont essentiels. Ces acteurs, ce sont les élus locaux, les maires, les conseillers généraux, les conseillers régionaux. Et donc, la politique publique, on fait ces politiques à la fois au niveau de l'État, mais aussi au niveau local avec l'ensemble de ces élus locaux. Et donc, l'objet de cette conférence nationale des territoires qui débute demain, c'est de pouvoir discuter de tous les sujets avec les élus locaux, de sujets très concrets. Pour parler des sujets dont moi je discuterai, ce sont les sujets du numérique. Vous savez, cette fracture territoriale qui est aujourd'hui constatée par énormément des Français qui se disent « Mais attendez, moi, on parle beaucoup de numérique, mais moi, j'ai pas accès au numérique. J'ai pas accès dans mes maisons, j'ai pas accès dans mes logements, j'ai pas accès dans la rue quand je veux téléphoner. » Et donc, c'est travailler avec les élus locaux pour voir, par exemple, sur le numérique, comment on accélère le déploiement.
Et ils vont accepter de travailler avec vous parce que ça a été quand même rude et chaud, la relation entre l'exécutif et les élus locaux.
On entend beaucoup, en effet, de commentateurs dire que les relations entre le gouvernement...
Il suffit d'ouvrir les oreilles, hein, c'est pas les commentateurs, c'est les acteurs.
Les élus locaux seraient difficiles. Moi, vous savez, les maires, je les vois au quotidien. Je travaille vraiment au quotidien avec eux et quand, main dans la main, on essaye de trouver des solutions concrètes pour apporter du bon débit à tous les Français en 2020 et du très bon débit à tous les Français en 2022, je peux vous dire que les discussions, elles sont efficaces et constructives.
Donc la fronde est derrière vous, derrière l'exécutif, ça y est, c'est passé.
Vous savez, avec les élus locaux, moi je pense que y a un contrat de confiance à rétablir. Cette confiance, pendant des années, elle s'est délitée, elle a été parfois perdue, souvent pour des questions budgétaires, parce que souvent les précédents gouvernements ont annoncé des choses qui, in fine, n'ont pas vu le jour. Souvent, des gouvernements précédents ont annoncé des baisses drastiques, unilatérales de financement. La méthode qui est la nôtre, la méthode suivie par Édouard Philippe, elle est tout autre, elle est d'être dans le dialogue, de dire la vérité, toujours la vérité, et de faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Typiquement sur les dotations financières. Monsieur Barouin, le président de l'AMF, ne cesse de répéter que l'État voudrait diminuer de 13 milliards d'euros les dotations financières. Bon, premier élément, Monsieur Barouin soutenait un candidat à la présidence de la République qui proposait de réduire de 20 milliards d'euros
les dotations financières.
Et le deuxième élément, qu'est-ce que fait le gouvernement? Le président de la République l'a dit dès la campagne présidentielle. On ne diminue pas les dotations, on dit juste aux collectivités, et d'ailleurs à 300 collectivités sur 36 000, il faut que vous limitiez l'augmentation de vos dépenses. C'est ça dont on parle, limiter l'augmentation de vos dépenses.
Bon, on en parle ou pas?
Parlons-en.
Notre-Dame-des-Landes, le rapport sera remis aujourd'hui. Quand on entend le discours d'Emmanuel Macron hier sur l'écologie, sur le développement durable, sur le retard pris dans le changement de monde nécessaire, c'est trop tard et c'est trop lent. On se dit qu'un aéroport en pleine nature, c'est totalement 20e siècle. Vous en pensez quoi?
Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet qui... date d'il y a plus de 40 ans. Vous savez, les premières affiches de Notre-Dame-des-Landes, c'était l'image d'un Concorde qui était censé relier Nantes à New York. Pendant 40 ans, on a imaginé des projets, on a construit des solutions. Puis on s'est arrêté sur cette option de Notre-Dame-des-Landes. Et là, de fil en aiguille, les années passant, aucun gouvernement n'a pris de décision. On a laissé des zones de non-droit s'installer. On a laissé des rapports les uns après les autres s'empiler. Aucune décision n'a jamais été prise, alors que cet aéroport, on en parle depuis des années. La position du gouvernement, celle du président de la République, elle est très claire. On sera ceux qui prendront une décision sur Notre-Dame-des-Landes. Et cette décision, le président de la République l'a dit hier, elle interviendra avant la fin du mois de janvier. Mais pour faire ça, il faut le faire avec méthode. Et donc le président de la République et le Premier ministre ont demandé à 3 experts indépendants de faire un rapport sur les plus, les moins de Notre-Dame-des-Landes et des alternatives
possibles. On a bien compris le processus.
Et ce rapport est remis ce matin à 11h30.
Essayons de sauter à la conclusion. Est-ce que de telles infrastructures, vous qui avez aussi la charge de l'aménagement du territoire, ministère de la cohésion des territoires, est-ce que de telles infrastructures sont dépassées?
Mais aujourd'hui, quand vous regardez le développement de l'aéroport de Nantes, celui qui existe, c'est plus de 5 millions de passagers qui, chaque année, utilisent l'aéroport de Nantes. Donc, pour moi, les aéroports sont sont évidemment des infrastructures qui ont de l'avenir en France.
Un nouvel aéroport aussi.
Mais la question, le rapport, je ne l'ai pas eu, il n'a pas encore été remis. Mais ce que je comprends, c'est que le rapport étudie les différentes alternatives entre un nouvel aéroport et une extension de l'aéroport existant. L'enjeu, il est quoi? La région et Nantes en tant que pôle économique a besoin d'avoir un trafic aérien supérieur. Aujourd'hui, il y a 5 millions de passagers, il pourrait en avoir plus. Pourquoi c'est important pour la région? Pourquoi c'est important pour Nantes? Parce que c'est du développement économique, parce que c'est du développement touristique, parce que c'est des facteurs de mobilité.
Et j'entends donc une petite musique anti-Notre-Dame-des-Landes dans vos propos.
Alors vraiment, je ne préempte aucune décision, mais vraiment aucune décision. Moi, j'agis avec méthode. Le rapport, je ne l'ai pas vu, il n'a pas encore été remis.
À titre personnel, vous avez une opinion sur ce dossier ou pas?
Vraiment, à titre personnel, moi j'ai une opinion et une conviction. Mon opinion, c'est qu'il faut agir avec méthode. J'attends de voir le rapport. Ma conviction, c'est qu'en revanche, il ne peut pas y avoir de zone de non-droit en France. Ça, c'est très clair.
Aujourd'hui, vous pensez qu'un tel projet pourrait être initié? Vous l'avez dit, ça remonte à des décennies. Mais est-ce que dans le monde contemporain, qui est celui d'une conscience profonde de la fragilité de la planète, est-ce qu'un esprit tordu aurait l'idée de dire « on va créer en pleine nature un aéroport » ?
Vous savez, les aéroports en France, c'est un vieux débat parce que je pense que nous sommes le pays qui a peut-être le record européen du nombre d'aéroports. L'enjeu, il est aujourd'hui à la fois de permettre le développement des aéroports et du trafic aérien, et en même temps de travailler notamment avec les fleurons de l'industrie européenne. Vous voyez de qui je parle, ces entreprises qui construisent des avions. Parce que l'avion de demain, c'est un avion qui consomme moins, c'est un avion qui pollue moins, c'est un avion qui fait moins de bruit. Et donc l'enjeu, il n'est pas simplement de parler d'infrastructure, il est aussi de parler du développement durable des avions.
Julien de Normandie, Dominique se le disait tout à l'heure dans son édito, il faudrait plutôt, au lieu de regarder le coût écologique de Notre-Dame-des-Landes, se poser la question des passoires thermiques. Parce que là, il y a un chantier absolument énorme qui concerne le logement. Régler le problème des passoires thermiques, ça permet tout simplement de consommer moins d'énergie. 15 milliards d'euros le chantier sur le quinquennat. Vous avez la certitude aujourd'hui que vous aurez ces fonds-là?
Vous savez, Dominique Seux a pleinement raison. On ne le dit pas suffisamment, mais la principale source d'émissions de gaz à effet de serre, ce sont les habitations. Effectivement, c'est le chauffage que vous mettez alors que vous pourriez en mettre moins. C'est ces fuites de chaleur que vous avez dans l'ensemble des habitations. Donc effectivement, il faut faire une rénovation énergétique très forte. Aujourd'hui, vous avez à peu près 1,5 million de passoires énergétiques en France. L'engagement que nous avons pris, et nous le tiendrons, c'est de limiter, de diviser par deux ces passoires énergétiques pendant la durée du quinquennat.
Ça coûte très cher.
Ça coûte très cher, mais il y a deux choses que vous pouvez faire. Un, c'est des financements de l'État. Et l'État met beaucoup de financements. Un exemple, l'État met 3 milliards de financements pour rénover énergétiquement les bailleurs sociaux. Premier point. Et puis deuxième point, vous savez, il y a aussi beaucoup d'économies que vous faites directement. Dans un immeuble collectif, si vous diminuez de 1 degré la température, par exemple la nuit, eh ben à ce moment-là, dans certains cas, vous pouvez diminuer de 7% les charges de chauffage que vous payez. Donc vous voyez que économiquement parlant, vous pouvez aussi trouver des solutions qui vous font gagner de l'argent.
On va donc y aller avec des fonds de l'État?
On va y aller en partie avec des fonds d'État et en partie avec des fonds privés.
Combien ces fonds? Parce que c'est quand même le nerf de la guerre, l'important. Il y a la volonté politique, mais il y a aussi la capacité à exécuter.
Alors ça dépend de là où vous exécutez. Les bailleurs sociaux, c'est 3 milliards d'euros. Dans les financements privés, on a une agence qui s'appelle l'Agence de l'Habitat et de la Rénovation. C'est 1,2 milliard d'euros sur la durée du quinquennat. Vous avez enfin des fonds qui sont distribués pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments publics. Et là, ce sera entre 2 et 3 milliards d'euros. Donc vous voyez, c'est des sommes d'argent qui sont conséquentes, mais encore une fois, c'est du bon investissement, de l'investissement rentable et de l'investissement qui préserve effectivement la planète.
Est-ce que l'État, Julien de Normandie, ne va pas appliquer la décision de justice concernant l'encadrement des loyers?
L'État a fait appel de la décision de justice. Pourquoi? L'encadrement des loyers, aujourd'hui, c'est un sujet très complexe. Moi, je ne sais pas vous dire si ça marche ou si ça ne marche pas.
Vous n'avez pas de religion en la matière?
Non, c'est pas que j'ai pas de religion, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas si ça marche ou si ça ne marche pas. J'ai demandé beaucoup d'études, j'ai lu énormément de rapports, je ne sais pas si ça marche ou pas. Aussi parce que l'encadrement des loyers, ça fait un an et demi que c'est pratiqué sur Paris et ça fait moins d'un an que c'est pratiqué sur Lille. En revanche, j'ai une conviction, c'est que l'encadrement des loyers, il faut aller au bout de l'expérimentation. Il faut savoir si effectivement ça marche ou non. Et donc,
combien de temps ça prend?
Ça va prendre entre 1 et 2 ans. Mais ça veut dire que pour faire ça, il faut effectivement faire appel de la décision de justice qui a cassé l'encadrement des loyers, à la fois sur Lille, à la fois sur Paris, pour aller au bout de l'expérimentation. C'est ce que nous avons fait. L'appel a déjà été déposé à Lille et sera dans les prochains jours sur Paris.
Alors on pose la question à tous les membres de l'exécutif qui viennent à ce micro. Pendant ce temps, sur le marché du logement, Airbnb prospère. Et on ne sent pas au gouvernement une volonté d'encadrer fermement un acteur de ce type, une plateforme numérique dont les effets sont pourtant extrêmement dur sur le marché de l'immobilier. Votre position là-dessus?
Elle est très claire. Premier point, les plateformes collaboratives, il ne faut pas les arrêter, aucunement. Les plateformes collaboratives, c'est parfois le beurre que vous pouvez mettre dans les épinards à la fin du mois. C'est une ressource d'argent pour beaucoup de nos concitoyens. C'est aussi la possibilité d'aller visiter des villes à faible coût.
Ça, c'est pour l'aspect positif.
Exactement.
Des choses.
Mais en même temps, ces plateformes, elles doivent comprendre qu'elles n'agissent pas dans une jungle dénuée de toute règle. Il y a des règles qui existent. Ce sont les règles fiscales. Vous savez, il y a quelques jours, Airbnb a proposé une carte de prépaiement qui passait par des paradis fiscaux.
Fini.
C'est inacceptable. Et donc, mon collègue Gérald Darmanin et mon collègue Bruno Le Maire ont reçu Airbnb et ont mis fin à cela. Et puis, deuxièmement, aujourd'hui, Airbnb, dans beaucoup de cas, ne respecte pas la règle qui sont très techniques, mais qui dit, par exemple, que vous ne pouvez pas louer pendant plus de 120 jours un logement. C'est quoi la conséquence? Les trois dernières années, sur Paris, pour ne citer que Paris, c'est 20 000 logements de moins qui ont été mis à la location. La location privée, c'est le logement que vous cherchez pour vous loger à l'année. Et ça, il ne s'agit pas de modifier des règles, il s'agit de faire appliquer les règles. Et donc, nous avons un dialogue avec Airbnb, nous modifierons la loi pour mettre plus de sanctions, parce que ces règles doivent être appliquées, mais moi, je serai intransigeant dessus.
Quand est-ce qu'ils vont payer véritablement leurs impôts en France?
C'est un autre sujet.
Oui, mais enfin, non, il n'est pas mineur. Hein.
Non, je suis d'accord, mais en tant que... Moi,
autant d'argent, autant de richesses, autant d'effets, aussi peu d'impôts, ça défie l'entendement.
Mais c'est scandaleux quand on ne peut pas consentir à payer l'impôt si d'un autre côté, vous avez des entreprises qui, elles, ne payent pas l'impôt juste qu'elles devraient payer.
Alors quand?
Et ça, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, je pense qu'ont démontré leur activisme pour faire en sorte que Airbnb puisse à terme payer l'impôt juste. De la même manière, ont montré leur détermination pour faire en sorte qu'Airbnb ne puisse pas faire des schémas de fraude fiscale. Moi, en tant que ministre en charge du logement avec Jacques Mézard, mon sujet, c'est de faire en sorte que les plateformes Airbnb et les autres respectent les règles de gestion. Parce qu'encore une fois, il faut les laisser se développer, mais en même temps, ça ne peut pas impacter les Français, notamment quand ces derniers cherchent des logements.
Acceptons-en l'augure, Julien de Normandie. La suite de notre entretien avec les auditeurs de France Inter, Léa Salamé, après la revue de presse de Claude Ascolovitch.